Est-ce qu'on m'entend bien? Le micro est bien réglé? Oui. Bonjour à tous, à toutes. Pour commencer cette réunion, je vais vous demander de fermer les yeux. Mais attention, ce n'est pas une raison pour s'endormir. C'est bon? Maintenant, vous imaginez que c'est le soir. Vous êtes chez vous, les stores sont déjà baissés. Soudainement, coupure de courant. Dans cette situation, il y a deux possibilités. Soit on a un téléphone portable à portée de main, soit on n'en a pas. Si on a un téléphone portable, pas de problème. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour avoir un peu de lumière, puis sur la fonction lampe. Si on n'a pas de téléphone, deux possibilités. Soit la lumière revient toute seule rapidement, et alors pas de problème. Soit vous savez que c'est le disjoncteur principal qui a sauté et que vous devez aller à tâtons jusque, par exemple, dans la cave pour le réenclencher. Dans le noir complet, qu'est-ce que c'est bien d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de lumière, une toute petite lampe? Ça change tout. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je ne vais pas dire tous ceux qui ont gardé les yeux ouverts. L'évangile de Jean affirme, dès les tout premiers versets, que Jésus est la lumière, qu'il est venu dans le monde pour éclairer tout homme, mais il n'a pas été accueilli et les hommes ont majoritairement refusé de se laisser éclairer. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? On est content d'avoir une lampe sur son téléphone portable, mais avec Jésus, est-ce que des fois, on ne reste pas un peu dans une zone d'ombre? Du moins, c'est ce qu'on s'imagine. Parce que devant Dieu, aucune zone d'ombre ne tient. L'évangile de Jean nous rapporte plusieurs rencontres de Jésus qui va mettre en lumière quelque chose de caché. Il met particulièrement en lumière la réelle motivation des personnes à le suivre. Ces personnes ont eu un choix à faire et peuvent nous aider à y voir plus clair sur notre positionnement, notre engagement. Nous aborderons trois de ces rencontres ce matin. Jean 3, Jésus et Nicodème. Jean 4, Jésus et la femme samaritaine. Jean 6, la foule nourrie par Jésus de façon miraculeuse. Et comme il y a Jean 5 entre Jean 4 et Jean 6, on va juste légèrement évoquer, sans rentrer dans le détail, trois rencontres de Jean 5. Dans chacun de ces éléments, nous verrons quelques éléments de contexte, comment Jésus met en lumière ce qui est caché et qu'est-ce que ça change pour ces personnes et pour nous aujourd'hui. Et je finirai avec un point spécial jeûne. C'est les vacances, donc on pense aux jeûnes là quand même. Voilà, première rencontre, Jésus et Nicodème. Quelques éléments de contexte, on va d'abord lire Jean 2. Alors on sait en général que Nicodème c'est Jean 3, avec le célèbre verset « Dieu a tant aimé le monde », alors qu'on sait à peu près que c'est Jean 3. Mais on va commencer à Jean 2, les derniers versets. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Beaucoup crurent en lui. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Les derniers versets du chapitre 2 nous présentent des personnes qui ont cru en Jésus à cause de ses miracles. Elles croient sur le moment, mais ne s'attachent pas à lui. Cette façon de croire en Jésus n'a rien à voir avec la véritable foi. Et voilà donc Nicodème, un pharisien, un chef des Juifs, qui vient voir Jésus. Il semble sincère en déclarant qu'il a compris que les miracles de Jésus viennent de Dieu. Et c'est déjà énorme, car la plupart des pharisiens rejettent Jésus, ont refusé de croire, de comprendre le sens des miracles. Nicodème n'est pas venu tendre un piège à Jésus. Il semble honnête dans ses réflexions. Sa démarche n'est pas mal, si ce n'est à un détail près. Il y en a qui sourient, on l'a compris, il vient de nuit pour qu'on ne le voit pas. Alors comment Jésus met en lumière ce qui est caché? On va lire ensemble la fin du dialogue entre Jésus et Nicodème en ayant bien à l'esprit que la rencontre se passe de nuit. On garde ce détail à l'esprit et on va lire la fin de ce dialogue. Jésus s'adresse à Nicodème. Et les paroles sont déménagées. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Jésus met Nicodème devant ses contradictions. Il lui demande de choisir. Deux possibilités s'offrent à lui. Être une personne qui fait le mal, déteste la lumière et ne vient pas à la lumière. Être une personne qui agit conformément à la vérité et qui vient à la lumière. À ce moment, je ne pense pas que Jésus suspecte Nicodème de faire le mal et que c'est pour ça qu'il est venu la nuit. Au contraire, je pense que Jésus reconnaît sa démarche sincère et l'invite à avoir le courage de se positionner clairement. Ce que ça change. L'entretien entre Jésus et Nicodème finit en queue de poisson. L'invitation est lancée et Jésus reprend la route de la Judée sans que Nicodème ne le suive. Il est intéressant de souligner que Jésus n'a pas cherché à le retenir. Il a également respecté la venue nocturne de Nicodème. À aucun moment, il ne l'a grillé en faisant remarquer à quelqu'un qu'il était venu secrètement. Jésus respecte cette démarche secrète et honnête, mais il aimerait que Nicodème devienne un disciple officiel. Pour Nicodème, le changement, ce n'est pas maintenant. Plus tard, lorsque Jésus sera crucifié, que tout semble terminé, il se déclarera au grand jour. Il accompagnera Joseph d'Arimathée pour réclamer à Pilate le corps de Jésus pour l'embaumer et l'enterrer. À ce moment-là, il n'avait absolument plus rien à y gagner. Aujourd'hui, Jésus continue de lancer son appel à le suivre de manière officielle. Si certains n'ont pas encore pris position, je les invite à y réfléchir aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà pris position, est-ce que toutes nos actions sont conformes au message de Jésus et peuvent être mises en lumière? Ou est-ce que certaines ne sont pas très glorieuses et on espérerait bien qu'elles restent cachées? Deuxième rencontre, la femme samaritaine. On va lire Jean 4, quelques versets, 3 à 8. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Élément de contexte. Dans notre église, il y a déjà eu quelques prédications sur ce passage et le personnage de la femme samaritaine nous est familier. Cette femme, divorcée 5 fois, rencontre Jésus au bord d'un puits. Lors de sa prédication en mars de cette année, Matthieu nous a expliqué qu'il faut changer notre regard sur cette femme qui ne porte pas la responsabilité de ses 5 divorces. Dans le contexte de l'époque, c'est elle qui a été renvoyée 5 fois. L'homme chez qui elle vit n'est pas son mari, il ne lui a pas offert la protection du mariage. Ses 5 maris successifs l'ont renvoyée pour n'importe quel motif, ils en avaient le droit et ils pouvaient tout aussi bien faire croire que c'était la faute de cette femme. Malheureusement, c'était à l'époque uniquement la parole de l'homme qui avait de l'importance. Donc cette femme était coincée dans sa situation. Cette femme était connue dans toute la ville de Sichar. Elle était la risée de tous. Elle avait honte de sa situation et évitait tout contact avec les autres. C'est pour cela, comme l'avait dit Matthieu, qu'elle venait en plein midi pour puiser de l'eau. C'est l'heure la plus chaude de la journée. Elle est certaine de ne rencontrer personne. À l'inverse de Nicodème qui est venu la nuit pour rencontrer Jésus en cachette, cette femme se cache, mais en plein jour. Et c'est Jésus qui veut la rencontrer. Comment Jésus met en lumière ce qui est caché? Mettons-nous 2 minutes dans la peau de cette femme qui vient puiser de l'eau. Elle ne se plaint pas. Elle a accepté son sort. Elle a un secret. Quelque chose qui la préoccupe depuis longtemps. Oh, ce secret, ce n'est pas ce que vous croyez. Comme je l'ai déjà dit, tout le monde est au courant de sa situation conjugale. Non, son secret, c'est que dans le désespoir de sa situation, elle remet son sort à Dieu. Au vrai Dieu, celui du peuple d'Israël, le frère ennemi. Elle aimerait adorer ce Dieu d'une manière juste. Et ici, à Sichar, tout le monde dit que c'est sur la montagne avoisinante qu'il faut le faire. Mais elle n'en est pas sûre, puisque les Juifs prétendent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Ah, si seulement quelqu'un pouvait lui expliquer comment faire pour adorer Dieu. Mais c'est peine perdue. Personne à Sichar ne s'intéresse à elle, si ce n'est pour se moquer d'elle. C'est bien entendu pour cela que, comme tous les jours, elle ne sort pas puiser de l'eau avec les autres femmes qui sortent le soir entre copines. Ça y est, elle arrive au puits. Mais mince alors, il y a un homme au bord du puits. Elle espère qu'il ne va pas profiter de cette situation sans témoin pour lui faire quelque chose d'inconvenant. Mais tout va bien, c'est un juif. Il va sans doute partir de peur pour ne pas être en contact avec une femme samaritaine, de peur de devenir impur. Tiens, c'est étrange. La femme s'approche et l'homme ne part pas. Qu'est-ce qui se passe? L'homme lui demande de l'eau. Mais ça n'a pas de sens, ça ne se fait pas. Les juifs et les samaritains n'ont pas de relation. La femme semble un peu perturbée par cette situation. Alors quand en plus l'homme lui dit que c'est lui qui peut lui donner de l'eau et que si elle en boit, elle n'aura plus jamais soif, elle a du mal à comprendre. Mais cet homme paraît différent. Il parle de choses spirituelles. Allez, c'est l'occasion, jamais. Elle lui pose la question qui lui tient tant à cœur. Comment faire pour adorer Dieu? Waouh! Cette réponse est incroyable. Elle n'a pas besoin d'organiser un pèlerinage à Jérusalem. Elle peut simplement l'adorer en esprit, n'importe où. C'est formidable. Mais c'était trop beau pour durer. Voilà que cet homme lui demande de chercher son mari. On voit bien qu'il n'est pas du coin. C'est justement le sujet qu'elle veut éviter. Et voilà qu'il met, sans le savoir, les pieds dans le plat. Elle ne veut pas s'étendre sur sa vie. Alors elle lui dit une partie de la vérité, à savoir qu'elle n'a pas de mari. Mais surprise, cet homme affirme qu'elle dit la vérité, alors que c'est lui qui va la dire pleine et entière. Il affirme sans la rabaisser qu'elle n'est effectivement plus mariée, mais qu'elle l'a été 5 fois et qu'elle vit maintenant avec un homme qui n'est pas officiellement son mari. Décidément, cet homme est exceptionnel. Et si c'était le Messie que les Juifs attendent et qu'elle attend également en secret? À ce moment, des hommes arrivent, ce sont les disciples de ce maître Messie. Ils sont un peu gênés de voir Jésus en compagnie d'une femme, ils ne savent pas trop comment réagir. Ah, il n'y a pas un instant à perdre, elle se rend en ville pour partager son incroyable découverte. Ce que ça change. Le sujet tabou de l'échec de sa vie, celui qu'elle évitait d'aborder et qui l'enfermait, devient la preuve du caractère particulier de l'homme qu'elle a rencontré. Jésus lui a prouvé de manière extraordinaire qu'il connaissait sa situation. Il est le sauveur attendu. Jésus lui avait demandé d'aller chercher son mari. C'était à la fois un prétexte pour libérer la parole de cette femme et à la fois un ordre de mission. Et cette mission est plus que remplie. Bien sûr, elle n'est pas allée chercher son mari, elle n'en avait pas. Mais elle va réussir à faire venir une bonne partie des habitants de la ville de Sichar, en disant simplement, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? Elle a dû être convaincante. Petite remarque, cette femme parle encore comme une victime. Elle s'accuse d'être responsable de ses 5 divorces. Elle devait en être convaincue à force d'entendre, c'est de ta faute. Normalement, les victimes se taisent et gardent leur honte pour elles, comme c'était le cas pour cette femme au début du récit. C'est le fonctionnement normal quand on est victime. Mais maintenant, elle le crie sur tous les toits. C'est un nouveau départ pour elle. Les habitants de Sichar ont pris sa parole au sérieux. Ils sont sortis de la ville pour aller à la rencontre de Jésus et ont cru ses paroles. Ils sont ensuite allés le dire à la femme. Dorénavant, le regard des gens aura changé sur cette femme. Ils ne peuvent pas nier que c'est grâce à elle qu'ils ont rencontré le Messie attendu. Même si dans leurs propos, on sent qu'ils ont un peu essayé de relativiser quand même. Maintenant, on a cru juste en l'écoutant lui. Mais ils ne peuvent pas nier que c'est elle qui les a fait venir. Cette femme samaritaine est le disciple le plus improbable et le plus actif que Jésus ait rencontré. Elle ne connaissait quasiment rien de Jésus, mais elle a simplement partagé ce qu'elle venait de vivre. Cela devrait nous encourager à parler de Jésus aux personnes que nous côtoyons. Au lieu d'avoir peur de ne pas pouvoir bien répondre aux questions qui nous seront posées, partageons simplement ce que l'on vit avec Jésus. Et si aujourd'hui, quelqu'un éprouve de la honte à cause d'un événement qui s'est produit dans sa vie, j'invite cette personne à en parler à Jésus. De toute manière, il connaît déjà la situation. Je ne sais pas comment il agira, mais je sais qu'il veut délivrer du poids de la honte. Petite parenthèse, donc, pour le chapitre 5 de Jean, il y a trois rencontres. La rencontre de Jésus avec un officier romain qui a foi en Jésus, et dont le fils mourant sera guéri à distance. Deuxième rencontre, un homme paralysé à la piscine de Bethesda. Cet homme guéri par Jésus ne lui a même pas demandé qui il était, alors que Jésus l'a guéri. Et il n'est pas devenu un disciple de Jésus. Troisième rencontre, Jésus et les pharisiens, qui accusent Jésus d'avoir fait un miracle, ce miracle de la piscine, le jour du sabbat, et qui veulent faire mourir Jésus. Jésus met en lumière ce qui ne va pas chez eux, Jean 5, 44. Ces hommes veulent être applaudis les uns par les autres au lieu de chercher la gloire qui vient de Dieu. Dans ces trois rencontres, et dans les deux que nous avons vues en détail, à chaque fois ce sont les personnes étrangères qui font preuve d'une foi surprenante, alors que les personnes de qui on attend qu'elles ont la foi, qu'elles aient la foi, sont au mieux hésitantes et au pire complètement opposées. Cela doit nous servir d'avertissement à nous qui affirmons suivre Jésus. Est-ce vraiment le cas? La troisième rencontre va mettre en lumière les motivations intérieures. La foule de Jean 6. Jésus fait un miracle dans Jean 6, c'est la multiplication des pains, on connaît, pour nourrir toute une foule. Et cela provoque une réaction. Cette foule veut le proclamer roi. Si le but de Jésus était de plaire aux hommes, alors ça aurait été son heure de gloire. Mais ce n'est pas le cas, et Jésus se retire dans la montagne. La nuit tombe et les disciples rentrent en bateau vers Capernaum, sans Jésus. Une tempête surgit, Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Et instantanément, le bateau accoste là où il voulait se rendre. Voilà pour le contexte. On va lire maintenant Jean 6, quelques versets. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans des bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac, puis lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez !» Non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit le texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie, c'est moi Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel. » Vous avez remarqué que Jésus dit à ces personnes « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le parallèle avec la femme samaritaine est évident. Jésus lui avait également dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » La réaction derrière n'est pas la même. Comment Jésus met en lumière ce qui est caché? Les apparences sont trompeuses. À premier abord, on voit une foule hyper motivée qui suit Jésus. De nombreuses personnes n'hésitent pas à traverser le lac en bateau pour le retrouver. Et c'est super! Une foule entière de disciples qui suit Jésus. C'est génial, la vue humaine, c'est génial! Mais il n'est pas dupe. Il a compris que c'était surtout pour manger à l'œil que ces personnes le cherchent. Jésus aurait pu remultiplier les pains, ça ne lui coûtait rien. Mais au lieu de cela, il leur dit sans détour, « Vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. » Il met en lumière leur véritable motivation. Dans la suite de cet entretien, il a même délibérément tenu des propos choquants, en affirmant qu'il est le pain de vie et qu'il faut manger son corps. Qu'est-ce que ça change? À partir du verset 70, on lit « À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. » Ces personnes sont dans le même état d'esprit que celles qui précèdent la rencontre de Jésus avec Nicodème. Elles n'ont pas compris que le miracle servait d'appui au message de Jésus. Elles voulaient juste profiter du miracle, sans chercher à comprendre, sans véritablement s'attacher à Jésus. Pour nous, aujourd'hui, cela doit également nous servir d'avertissement. Quelles sont nos véritables motivations pour suivre Jésus? Est-ce que cela pourrait être par intérêt? Par exemple, je suis un disciple de Jésus parce que ça donne un sens à ma vie. Ça m'évite d'être seul. Je rencontre d'autres personnes en venant à l'église. J'ai des amis, j'espère peut-être même y trouver un conjoint. Ou alors j'espère que Dieu me bénira pour que je reste en bonne santé et que je sois dans l'aisance matérielle. Un peu comme si on donne quelque chose à Dieu, on espère avoir vraiment beaucoup en retour. On peut bien entendu remercier Dieu parce qu'il a donné un sens à notre vie, parce qu'on a des frères et des sœurs dans l'église ou pour la santé et les biens matériels qu'il nous accorde. Mais est-ce que ce sont les raisons qui font de nous un disciple de Jésus? Cela ne devrait pas. Ce sont des conséquences possibles, mais pas du tout automatiques, de notre attachement à Jésus. Pas du tout automatique. La seule motivation de notre attachement à Jésus doit venir de sa personne et de son message. Si ce n'est pas le cas, j'ai bien peur que l'on ne suive Jésus que par intermittence et que l'on finisse par donner un autre sens à sa vie. Si l'une de mes motivations, c'est la rencontre d'autres personnes, d'avoir une place parmi elles, peut-être une place entre guillemets importante aux yeux de certains, et qu'il y a un problème dans l'Église, alors on laisse tout tomber car on est déçu des chrétiens, ou pire, on s'en va avec perte et fracas. Si une de mes motivations, c'est de trouver un conjoint, et que cela arrive, le conjoint en question va tôt ou tard se rendre compte que l'attachement à Jésus, de son mari ou de sa femme, n'est pas 100% réel. Il y a eu tromperie, plus ou moins intentionnelle, suivant le degré de conscience de la personne. Car je pense que l'on peut se tromper soi-même aussi sur la réalité de notre attachement à Jésus. On peut croire qu'on est attaché à Jésus, mais on sait pas, on n'a pas vraiment réfléchi. Ouais, on suit le mouvement. Ouais, c'est super d'être là, on fait un peu comme tout le monde, mais on ne s'est pas vraiment approprié ça. Et donc, on peut se tromper soi-même et finalement tromper les autres et arriver dans des situations après compliquées. Il est très important de s'arrêter vraiment et de réfléchir sérieusement à nos motivations, à notre attachement à Jésus. Première conclusion. Nicodème, la femme samaritaine et la foule de disciples ont rencontré Jésus. Chacun a été surpris par un miracle ou une parole prophétique de Jésus. Chacun a écouté et chacun a dû faire le choix de croire ou non à l'enseignement de Jésus. Être ou ne pas être un disciple de Jésus, là est la question. J'ai juste un petit problème avec le mot disciple, je ne sais pas vous, mais moi oui. Il n'est plus très parlant aujourd'hui. Disciple, on a l'impression que c'est quelqu'un qui jette un filet dans l'eau, là. Surtout pour les jeunes, mais pour moi aussi. Alors la dernière idée que je vais développer s'adresse d'abord aux plus jeunes ou à ceux qui ont du mal à savoir ce que c'est un disciple. Allez, un point spécial jeune. J'aimerais très rapidement reprendre les trois rencontres évoquées ce matin en imaginant qu'elles se passent aujourd'hui en 2021. Bien entendu, ces trois rencontres se passeraient sur Internet, sur les réseaux sociaux. Merci, bonne réponse à ma droite. Jésus serait YouTuber. Il aurait des comptes Insta, Snap ou Twitter. Ça vous fait sourire? Ça vous choque? C'est un peu fait exprès. Le but, c'est de nous faire réfléchir autrement. En réalité, cette idée n'est pas aussi saugrenue qu'elle y paraît à premier abord. Le premier point commun, c'est que les YouTubeurs, c'est officiel, sont des influenceurs. Or, Jésus est le plus grand influenceur de tous les temps. En 2000 ans, il a influencé des milliards de personnes. Même si le message de Jésus a souvent été mal compris, interprété, et qu'il est de plus en plus contesté. Il n'en demeure pas moins que Jésus est un influenceur. Le deuxième point commun, c'est que les YouTubeurs sont suivis par des communautés de followers. Or, la traduction de follower n'est autre que disciple. Surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, tapez follower au singulier sur Google et vous aurez la première chose qui apparaît, traduction disciple. Ah, follower, ça commence à parler un peu plus à nos générations. Pas la mienne, mais je me situe entre disciple et follower. Bon. Comment se passeraient les trois rencontres aujourd'hui? La première rencontre, celle de Jésus avec Nicodème. C'est un peu comme quelqu'un qui se créerait un profil fictif. Il regarde quelques vidéos de Jésus sur YouTube et pose quelques questions sur Insta de manière anonyme. Il ne veut surtout pas avouer à ses potes qu'il passe du temps à regarder ses vidéos. Il n'est pas encore certain de vouloir s'abonner à la chaîne de Jésus et de devenir un follower. Regarder quelques vidéos de temps en temps et ne pas donner suite, c'est aussi un peu comme une personne qui se dit croyant non pratiquant. Ce n'est finalement pas un véritable follower. Il a beau croire que Jésus est quelqu'un de bien, il ne le suit pas vraiment. Ce n'est pas la foi authentique, ce n'est pas la foi qui porte du fruit, ce n'est pas la foi qui sauve. To be or not to be a Jesus follower, that's the question. Excusez mon accent. Sommes-nous des followers publics ou uniquement des followers la nuit ou le dimanche? Qu'en est-il de nos prises de position publiques à l'école, au travail, avec nos voisins, nos amis, sur un terrain de foot ou de basket? Je ne vais pas respecter la chronologie des trois rencontres de Jésus pour passer directement à la troisième, celle de la foule des disciples ayant bénéficié de la multiplication des pains. Cette foule me fait penser à des disciples qui confondent Jésus avec le fameux YouTuber MrBeast, Jimmy Donaldson de son vrai nom. Ce dernier est connu pour ses vidéos giveaway dans lesquelles il fait de généreux dons à ses abonnés ou à des inconnus. Il est allé jusqu'à offrir une véritable maison à l'un de ses followers qui a gagné un concours de construction de maison virtuelle sur le jeu Minecraft. Entre 2019 et 2020, il a doublé son nombre d'abonnés, qui dépasse 48 millions, et il a gagné lui-même 24 millions de dollars en un an. Ses followers sont fidèles, car ils espèrent gagner eux aussi des cadeaux. Mais Jésus serait un tout autre style de YouTuber. Si la possibilité de devenir son follower est offerte à tous, peu le deviennent, car l'engagement est total. Dans Luc 14, 27, Jésus dit « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon follower. Jésus ne dit pas ce que tout le monde a envie d'entendre. Dans Jean 5, qu'on a rapidement évoqué, Jésus dit aux pharisiens, « Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. » Jésus ne chercherait pas à avoir le plus d'abonnés possible. Alors, pas étonnant que beaucoup se désabonneraient de sa chaîne le jour où ils pensent ne plus rien avoir à y gagner. Pourtant, en plus du salut, il y a beaucoup à y gagner, et c'est très simple de gagner, mais pas forcément tout de suite. Jésus dit, par exemple, « Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon follower, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus appelle ses followers à être solidaires les uns des autres. Il attend aussi de sa communauté qu'elle se démarque par l'amour que ses followers ont les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes followers si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai gardé la meilleure rencontre pour la fin, celle avec la femme samaritaine. C'est elle, la véritable follower. Non seulement elle est abonnée à tous les comptes, elle partage tous les liens, elle fait suivre des vidéos, elle invite toutes ses connaissances à écouter le message. D'ailleurs, elle ne fait pas uniquement qu'écouter. Elle se laisse influencer. C'est par la foi qu'on est sauvé, mais la foi qui sauve, c'est celle qui se laisse influencer par Jésus, sa présence, son message. C'est ça, être un véritable follower. Pour conclure, je vous invite également à réentendre la mission que Jésus nous confie. Allez, faites de toutes les nations des followers et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais terminer par la prière. Merci Seigneur Jésus parce que tu as fait de nous tes followers. Merci pour la joie qu'il y a d'être ton follower. S'il y a des zones d'ombre dans nos vies à cause du mal que nous avons subi, alors délivre-nous du poids de la honte ou de la colère et aide-nous à pardonner. S'il y a des zones d'ombre dans nos vies à cause du mal que nous avons commis, alors travaille notre conscience par ton Saint-Esprit. Brise nos résistances et notre orgueil et donne-nous la force de demander pardon. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à aimer les autres followers et apprends-nous à aimer toutes les personnes que nous côtoyons. Amen.